Radio Lingo d'Okazaki.
Radio Lingodoc va suivre la manifestation Frontiero qui se déroule à Treille du 22 mai au 21 juin. C'est une manifestation portée par l'association Autour de l'Art qui se déroule dans le cadre du dispositif Total Festum. C'est un dispositif soutenu par la région Occitanie qui vise à promouvoir la langue et la culture occitane. Et donc l'association Autour de l'Art a proposé un ensemble d'actions culturelles autour du thème de la frontière, explorée sous ses aspects historiques, linguistiques, symboliques et humains. Située dans les Corbières, la commune de Treille fut longtemps un territoire de contact entre Occitans et Catalans, entre le royaume de France et celui d'Aragon. À partir de cette frontière ancienne, le projet interroge aussi sur les frontières contemporaines, celles qui séparent ou qui relient les peuples, les cultures et les individus. Du 22 mai au 21 juin, l'exposition des œuvres de la collective Praxis Ethnico-Luro sera à découvrir à la Maison Villageoise de Treille, mais il y aura également des conférences, de la musique, initiation au tambourin et l'interprétation de contes du pays occitan par la comédienne Bernadette Boucher. Radio Lingodoc sera présent à chacun de ces événements et donc, chers auditeurs, on vous emmène avec nous pour vous partager ces moments si vous les avez manqués. Je vous invite à venir découvrir le trio Kichutuple qui se représente et on va essayer de capter un petit peu de musique. Nous sommes le vendredi 29 mai, toujours sur la commune de Treille, c'est 18h et nous sommes en compagnie de Marc Pala qui va commencer sa conférence sur le sujet de frontières puisque Marc Pala a écrit un livre en partenariat avec le parc de la Narbonnaise sur justement cette question de frontières. On ne pourra pas vous retracer toute la conférence, hein, on va peut-être vous capter quelques extraits. Et puis si vous avez envie d'en savoir plus, on mettra sur notre site internet les liens vers le livre.
Les deux mots de l'époque qui m'ont constitué des territoires absolument plus importants, même le comte de Toulouse, un territoire plus important que les premiers Capétiens. Les Capétiens sont recentrés sur Paris, sur un tout petit territoire. Donc le comte de Toulouse et le comte la Baison d'Aragon-Barcelone vont devenir les deux grands de l'époque. C'est eux qui vont faire la pluie et le beau temps sur les marches d'Espagne. Et donc, dans ce comté de Toulouse, il y a plusieurs petites vicomtés. La vicomté de Narbonne, celle de Béziers, celle de Carcassonne, qui ne pourront survivre qu'en menant une habile politique de bascule entre le roi, enfin, entre le comte de Toulouse et le roi d'Aragon. Un jour on est d'un côté, un autre jour on passe à l'autre, et c'est ainsi que ces vicomtés arrivent à survivre, à ne pas se faire phagocyter.
Nous sommes le samedi 30 mai, c'est 10h, nous sommes à la Maison Villageoise de Treille pour la conférence de Roxane Sourbier, alias Roxitanie, que vous connaissez bien puisqu'elle anime également une émission sur nos ondes. Sa conférence porte sur la recherche de ses origines et l'apport de la langue, voyage entre pays catalans et occitans. Nous vous proposons d'écouter quelques extraits de sa conférence. Et puis, on va la capter en entier, la conférence. Donc, on la diffusera peut-être uniquement en podcast sur notre site internet. Donc, restez à l'affût. Allez sur radiolingodoc.eu pour découvrir en détail la conférence de Roxane.
Alors, j'ai mis cette phrase du grand poète Jean-Louis Barbier, mon grand-père. Alors, parce que j'ai découvert il y a 2 ans que mon grand-père avait écrit un livre sur Cap. Personne ne l'avait dit. Donc du coup, je travaille à le publier. Et cet été, je vais être à Cap en juillet et août, parce que je travaillerai à la ferme à Sals. Donc du coup, je prendrai le temps en étant ici de travailler sur ce livre. Vous en direz plus. savoir un peu quand on est un peu perdu dans sa vie. Mais des fois, ça aide bien de retourner à ses origines. Alors, donc j'ai commencé au départ de Cap à me renseigner un petit peu donc, sur la famille. Donc, ma mère, Nancy, est née à Cap. Donc là, on a quelques membres de la famille ici. Et mon père en Haute-Garonne. Et donc, j'ai voulu me renseigner sur la famille Barreda de Cap. Qui sont venus d'Espagne, du pays valencien. Donc, est-ce que par exemple, vous, il y en a qui ont aussi ces mêmes origines d'Espagne? Ah, alors vous, c'est de quel coin?
Du côté de mon père, Valence.
Ah, d'accord.
Et donc, ils sont venus à Salem, c'est-à-dire le pays narbonnais, à 12 km de Narbonne. Et bon, ma grand-mère ne connaissait pas un mot, évidemment, de l'occitan qui était parlé à cette époque-là. Elle mélangeait le catalan du sud de l'Espagne avec l'occitan et le français.
Ouais.
Ce qui fait que
pareil
quand elle allait à l'épicerie, et que bonjour, bien, oh, bol zéro que fort. Oh non, boli pas zéro que fort, boli des queso forte. Les gestes, dans la langue, il y a un qui compte les trucs à voir.
Ah, oui, oui, oui.
Le malastre du monde est que le monde de ses compagnons passe. Et c'est de mon papeto. Mon papeto era valenciano, era paleta. Quand venu paleta, c'est-à-dire maçon, c'est-à-dire bon ouvrier ordinaire, tout ça, dans le bâtiment. Et Perinja, on a volé l'épicerio, et ça veut dire que vols de bacalao. Le bacalao, c'était la morue séchée. C'était la viande du pauvre à l'époque. Maintenant, c'est devenu un plat de riche. Ça, c'est autre chose. Mais tout ça pour dire que la difficulté de compréhension, c'est-à-dire la langue, hein, qui était au final que de l'occitan, parce que les Catalans sont des Occitans, qu'ils soient du nord ou du sud, hein, de Valence, hein,
et bien, oui, de
la
base,
difficulté était là. Et en plus, il y avait la mutation du français là-dessus. C'est-à-dire que pour être quelqu'un de bien, il fallait parler français. Alors là, mes grands-parents, pourri complètement, ouais. Ils ne savaient pas.
Ils sont arrivés en quelle année ici?
Ah ben alors, au début du siècle passé, où il y avait tellement de misère à Valence, hein, que mon grand-père, ouais, il avait 7 ans, il tournait une roue pour faire tourner un manège d'enfant.
D'accord.
À l'âge de 7 ans.
Okay.
C'était une misère noire. Ça a été une migration économique.
Hein. Ouais.
Voilà, donc il faut le situer comme ça.
Ouais.
Après, bon, du côté de ma mère, c'est différent. Après, je ne veux pas m'étaler trop longtemps, je ne veux pas me poser la parole.
On ferait le pareil.
Après, c'est un questionnement majeur dans mon esprit, ça.
Oui, d'accord, très bien, très bien. Mais du coup, ça tombe bien parce que celle-là, c'est un peu la même histoire. Il y en a d'autres qui ont un peu ces mêmes origines?
Non, c'est je suis del Carci.
Des Carci?
Non, l'Occitane, non, mais juste.
Oui, de quel pays?
Faten, il y a 50 ans, il fait la Smendem et la Cognac de la Courbière.
Attends, peut-être en français aussi pour
Non
occitanophones. Tout le monde comprend?
Non.
Ah,
oui. Donc, pendant que j'étais étudiant, j'ai fait une ou deux ans de vannage à Cognac des Corbières, à Cognac-Corbières, donc à côté de Lézignan. Et il y avait des ouvriers qui venaient de la propriété faire les vannages qui étaient valenciens. Et on parlait donc, moi, en langue d'Ossian, et elle est valencienne, et les deux langues fonctionnent très bien.
Ouais. En plus, je trouve que dans les. Donc, tout le, c'est dommage, je ne vous ai pas mis de carte. Tout le pays, les pays catalans, en fait, donc ça inclut, bon, là on l'appelle la Catalogne du Nord, c'est-à-dire les Pyrénées orientales. Après, en dessous des Pyrénées, la Catalogne qu'on connaît, du sud. Après, dessous, le pays valencien, en long, long de la mer. Et après, il y a les Baléares aussi. Je ne sais pas si vous saviez qu'ils parlent catalan aussi aux Baléares. Et après, il y a une ville en Sardaigne. S'appelle
Alguero. Il ne faut pas oublier quand même l'Andorre ou la langue
et
officielle.
Tout à fait.
C'est un État qui a une langue officielle, le catalan.
C'est la langue officielle, l'Andorre. J'ai rien oublié. Je crois que c'est bon. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais mis au pluriel les pays catalans et j'ai inclus donc le pays valencien.
Nous avions envie de poursuivre ce moment convivial, donc nous sommes une dizaine à nous rendre au restaurant de Treille, l'atelier, pour poursuivre ce moment convivial et partager un bon repas, sachant que le propriétaire du restaurant de Treille, l'atelier, est très sensible à la culture occitane et la culture basque, hein, il parle occitan et le basque. Donc on va déguster un bon repas et puis on fera une interview après de ce restaurateur.
Bon, bei sen a Treille, és a costat de Cabo, més dins la nautu del país, un plat polit bilatge, i on hi ha l'atelier, donc un restaurant, sen recebent l'oncle patró, el cap mestre de
l'aquel restaurant. Oh non, David et Christelle, il n'y a David, pas de maître sans femme.
Voilà, et le fait de ser a Treille, donc, qu'est-ce pas si c'est proche de la, enfin, proche, si, de la grande route del tourisme.
Oh, mais pas de la mission Racine, maintenant il faut que l'arrête.
Non, non, d'accord. C'est pas un problème, les gens, le monde qui aime ce qu'ils font, ce que la préparation est à faire, donc ben on est ici, quelques kilomètres et on ben ici.
Non, et puis en plus, tu sais, on a la chance maintenant avec les outils que nous avons modernes, de l'internet, des avis et tout ça, machin. On a des gens qui viennent d'Espagne, grâce aussi à des locomotives navarraises comme les Grands Buffets et autres, qui font que des fois, quand ils sont en carafe sur l'autoroute, ils regardent sur leur Google. Et quand on a des bons avis, tu regardes le truc et tu dis « Ah bien, on va faire quelques kilomètres. » Comme, tu sais, fait penser au film « L'herbe est plus verte ailleurs », c'est l'auberge dans le pré, non, la vie dans le pré avec Eddie Mitchell.
Ouais, Eddie Mitchell, ouais.
C'est quoi
Cerro.
Oui, Cerro, oui. Comment ça s'appelle Ah oui, oui, tu vois, quand ils sont prêts à faire 200 kilomètres de petits détours pour manger dans un petit restaurant. Qui, ouais. Oui, c'est dans le pré, vraiment. Ouais, bah, il faut que je le retrouve.
Et à Treille, il y a une biaise, il y a une biaise de biure, il y a une pichette de communauté.
Si,
et
le sommet
pas. 50.
De moment, le sommet pas. Fai un anno
che cosa qui?
De moment, non. Il y a un petit village ancien, là, qui peut être un lotissement, là, avec la vue sur le Canigou et sur la Méditerranée. Je pense que c'est un village qui est en plein devenir. Parce qu'on a. Le calme et la richesse du, ben, je veux dire, de la campagne, à deux pas de la Franquie, de Leucate, des belles plages. On est à une demi-heure de l'Espagne, c'est un beau village. Et oui, bien sûr que comme tout village de l'Aude, il y a un caractère. Maintenant, voilà, et grâce à l'auberge, on fera que les gens se rencontrent et dansent ensemble et se connaissent. Quoi.
On parlait avec le grand chef, mais aussi vous, évidemment, oui. De ce lieu, de ce restaurant que vous avez repris, situé à Treille, ancré dans son pays, dans le pays, dans les cultures, dans les productions aussi locales. Vous mettez beaucoup en avant ça dans la cuisine. Quelles sont les caractéristiques de ces choix de cuisine ou de plats?
Déjà, à la base, c'est le départ, c'est les courses, c'est le produit. C'est aller à la rencontre des producteurs, aller à la rencontre des pêcheurs, aller à la rencontre de tous ces gens qui nous nourrissent. Et c'est le produit après qui me parle. C'est le produit, une fois que je l'ai dans les mains, c'est lui qui me parle et qui me dit « Ah tiens, j'aimerais bien que tu me cuisines comme ça » ou « que tu me cuisines comme ça ». Et c'est pour ça que pour moi c'est très difficile de me faire livrer, c'est très difficile de faire autrement que comme ça, parce que c'est le produit qui me parle. Et évidemment, bah, après ce sont les odeurs, ce sont l'entourage. Et voilà,
ces pêcheurs, ces producteurs, ils sont dans un rayon de 20-30 km
Oui, là par exemple, récemment, c'est pour la Nouvelle. Le thon rouge qu'il y avait sur la carte aujourd'hui, c'est pour la Nouvelle. Les tomates, les légumes, c'est également pour la Nouvelle chez Rémi Bruno, qui porte beaucoup de cœur à mettre en avant ces beaux produits et qui ont beaucoup de saveurs. L'agneau du pays catalan, voilà, et après, au hasard des rencontres.
Pouvez-vous me dire les horaires du restaurant?
Alors, du mercredi au dimanche, sauf le dimanche soir, voilà, midi et soir. Le Facebook, c'est l'atelier de Treille, je crois, non, c'est ça
ouais,
cuisine
ça.
Et grignotage, il faut chercher un petit peu. Et le numéro de portable, 070 30 87 75.
Voilà, je rajouterai vive les Pyrénées. Voilà.
Bon, il y a des soirées à thème. Bon, je vois soirée de jazz.
Il y a des soirées à thème. Celle-ci, ce sera la dernière avant cet été, puisque dans le village de Treille, il est très dynamique l'été. Donc du coup, on va leur laisser la place. Et après, on reprendra les concerts certainement au mois de septembre. Voilà,
c'est ça. Et après, voilà, on retourne pour les sapins.
Soirée jazz, samedi 18 juin.
Le 18 juin, soirée jazz avec Edith et Michael. C'est ça?
Je vous ai compris.
18 juin à Treille.
Grand merci.
Dimitri, voilà.
Es un helado de lingo.
Moi c'est l'oiseau que j'aimais.
Aina Lorela. Es serge yaro chori a sango.
Chori c'est l'oiseau.
Aina Lorela. Es serge yaro chori a sango.
Tanik.
Ah,
ça dirait moi.
Joria Nures Maite,
c'est pas ce que j'aimais. Et Tanik et moi.
Ah oui?
Et Tanik. Joria Nures Maite.
La cambre est arrendado. Une fena que se despuglio, une fena que se despuglio. Se tava la mira dell'armari, davanti. La cambre è arrendato. Un ufeno che si despuglio. La cambre è arrendato. Un ufeno che si despuglio. Se trovi caro bello. La cambre è arrendato. Un ufeno che si despuglio. La cambre è arrendato. Un ufeno che si despuglio. La luz de lili muntunaras della finestra. La luz de lili muntunaras della finestra. La cambre se esclafundere. c'est la Zélandale, le fait que c'est des spoules. La ferme des Zélandale, le fait que c'est des spoules. La ferme des Zélandale, le fait que c'est des spoules. D'avant l'humiral de l'armari, d'avant l'humiral de l'armari, d'avant l'humiral de l'armari, l'humiral de l'armari.
Animateur de longue date du groupe Tambourin du Narbonnais, la parole à Eric.
Le comité de l'ordre de Tambourin.
De Tambourin, qui a pour objectif aussi de faire, de développer et de faire connaître le tambourin dans l'ordre, dans le département. C'est un de ses objectifs, un de ses rôles, d'aider les clubs existants, d'essayer d'en créer d'autres et de participer à toute manifestation qui tourne surtout autour de l'Occitanie. Hein. Pour faire connaître notre sport régional qui, malheureusement, dans le département, est plutôt méconnu. Donc voilà, donc c'est avec plaisir qu'on est venu ici, parce que c'est aussi un de nos rôles de faire connaître et de montrer aux gens.
Donc pour nos auditeurs, peut-être d'abord dire un petit peu ce que c'est le tambourin comme type
alors,
de sport.
Alors le jeu de balle au tambourin, c'est un jeu de balle qui se pratique avec une raquette. Donc au départ, c'est le jeu de paume qui est devenu tennis dans les pays anglo-saxons, pelote basque en Pays basque et jeu de balle au tambourin sur l'arc méditerranéen, France et Italie. Voilà, c'est des sports qui sont cousins, mais avec quelques variantes. Voilà. Après, ça se joue comme le tennis en gros.
Alors, ça se joue en extérieur, dans un très grand terrain et à l'intérieur aussi.
Exactement, ça c'est principalement c'est l'extérieur sur un très grand terrain qui fait 80 mètres de long sur 20 de large. On est 5 contre 5. Et depuis les années 90, s'est développée une variante qui se joue en salle. Surtout l'hiver, parce que le tambourin, essentiellement, c'est l'été que ça se joue. Mais l'hiver, il n'y avait rien qui se faisait, donc petit à petit, s'est développée une variante. Ça se joue sur un terrain qui est à peu près grand comme un terrain de handball. Et la balle est beaucoup moins dure, c'est une balle de tennis basse pression. Et là, on est 3 contre 3, au lieu d'être 5 contre 5. Et bien, ça a vraiment relancé l'activité tambourin, le tambourin en salle.
C'est un sport très physique quand même, non ?
C'est quand même physique, oui. C'est un sport collectif. Mais on ne se fait pas de passe comme au rugby ou au football. Donc on est seul à avoir la responsabilité de la balle. Donc on engage son équipe. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi parce que c'est derrière, c'est les collègues qui peuvent en pâtir quand la balle revient d'une façon ou d'une autre.
Alors historiquement, il y a un grand écrivain occitan de l'Hérault,
Max Rouquette qui a popularisé, voilà. Et qui a développé, qui s'est investi dans le tambourin. Oui, tout à fait. C'est lui qui a...
Il l'a développé aussi, je crois, en Italie.
Enfin, oui. Il a fondé les bases du règlement international actuel du tambourin. Oui, c'est vraiment un très grand acteur du tambourin, du sport tambourin, tout à fait.
Et alors, qu'est-ce que vous voyez comme initiative comme pour faire que des jeunes s'y mettent à ce type de sport?
C'est très difficile. Le tambourin, on a vraiment du mal à se développer. Quand on va auprès des jeunes dans les écoles, on a un très bon accueil, on est bien reçu, les gens s'appelaient. Mais après, on n'arrive pas à adhérer parce que faute de bénévoles, faute de dirigeants et faute de médiatisation. Malheureusement, on est dans une ère où la médiatisation est très importante. Et le foot, le handball, l'escrime, le ping-pong avec les frères, voilà, on développe un aura que nous, on n'a pas.
Et il y a la mode pourtant maintenant du padel.
Voilà.
Et c'est, ça peut être proche quand même. Parce que
le padel, c'est très proche, hein, mais eux, ils ont l'avantage, c'est qu'on joue seul. Ou à deux maximum.
Oui, deux.
Ou à deux maximum. Donc, c'est plus facile. Et puis, il n'y a pas un championnat de padel. Vous faites des tournois. Donc, il y a cette liberté. Vous y allez, vous n'y allez pas. Vous faites du tambourin, vous faites un championnat. Donc, tous les dimanches ou tous les samedis, vous avez, comme du football ou comme du rugby, je veux dire. Mais c'est un sport d'été. Donc, l'été, les gens... ont plutôt de mal, surtout depuis la Covid, qui se sont aperçus que le week-end on pouvait faire autre chose que du tambourin. On a perdu beaucoup de monde et qui ont du mal à revenir. Le padel a cet avantage-là, c'est qu'il y a moins de contraintes pour faire les matchs. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça s'est développé. Puis peut-être une plus facile à jouer aussi.
Donc pour terminer, quelqu'un qui serait intéressé, qui voudrait un peu se rapprocher de vous, il s'adresse à qui ?
Il s'adresse au comité de l'ordre. On est sur tous les annuaires et nous, selon où il habite, on l'approchera des clubs sur l'Aude ou sur l'Hérault, enfin en fonction de son lieu d'habitation. Et nous, c'est avec plaisir qu'on les accueillera.
Et vous nous rappelez votre nom, s'il vous plaît ?
Je suis Eric Castillo, voilà, président du comité de l'ordre.
Bon, et je précise pour terminer que le club fait partie de la convergence occitane de l'Oustal.
Le club de Narbonne, oui, l'anneau tambourin, à venir Narbonne Olympique Tambourin, fait partie de la convention de l'Oustal de Narbonne, avec beaucoup de plaisir.
L'organisation audoise, elle est comment alors ?
Mais il y a eu jusqu'à... Maintenant, on a pas mal de difficultés, mais il y a eu jusqu'à 4 clubs, Limoux, Carcassonne, Narbonne et Vinassang. Et avec une grosse école de tambourin à Narbonne. Mais c'est des clubs qui sont... comment dire ? Ils ne sont pas engagés au niveau compétition, c'est plutôt du loisir. C'est plutôt du loisir, mais le gros souci qu'ils ont, c'est que le gros du tambourin se joue dans l'Hérault. Et plus on s'éloigne de l'Hérault, plus c'est difficile, les transports. Quand on voit maintenant le prix de l'essence. Hein. Et c'est vrai que ça cause pas mal de soucis de développement de ce sport dans l'autre.
Bon, eh bien, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et alors, on escoute Mélanie Roussel qui a fait une polie d'exposition.
Le triol, parce que treille, alors il y a différentes étymologies, mais peut-être c'est le pressoir. Et c'est Mundat. Et tu as la strulios, peut-être c'est ce qui est démort à la fille quand tu as tout pressat. Et donc, il faut être des mutations qui viennent par là. Mais oui, donc il fait ça quoi par rapport à la dilate. Et donc, il représente quoi la matière organique, on parle. Ce qui est des morts, et le blanc qui est une parole espère quand même, mais évoque la violence économique et aguette par rapport à la viticulture.
D'accord.
Et Banireno Chagri est une des la parole de la cansou, d'une cansou, c'est Benol là. Nautres deuren debi, serremati Banireno Chagri, c'est-à-dire on chassera
d'accord.
Le chagrin. Et on va.
Excellent.
Ouais,
ça c'est bien, ça se voit que ça représente un peu
c'est vrai.
La couleur de la vie, de la matière organique en général.
Ouais, ouais. Mais après, chacun. Enfin, moi j'ai écrit un truc, mais il faut que chacun puisse voir
oui,
ce qu'il veut.
Non,
mais veut ce qu'il veut dedans.
Radio Linguadoc est à Treille. On continue l'événement Frontières qui se déroulait sur plusieurs jours. Donc là, on est le vendredi 12 juin et c'est la comédienne Bernadette Boucher qui va se représenter et interpréter des contes du pays occitan. Donc on va vous partager tout ceci.
Alors pour commencer, comment ça ? Quand il y a quand même une petite règle quand on raconte des contes, c'est que pour lui faire venir, si je dis cric, vous dites crac. Et le conte est là, hein, c'est pas compliqué. Et après, à la fin, c'est et crac et cric, le conte est fini, et cric et crac, le conte est acabat. Comme ça, ceux qui ont fini leur pizza, s'ils veulent partir, ils partiront après le cric et crac, le conte est acabat, et pas pendant le conte. C'est plus sympa pour moi. Je suis Hercule. Ah, très bien. Oui, j'ai déjà fait 9 travaux. Je vais faire le 10e, là-bas, tout au fond de l'Espagne, qui ne s'appelle pas l'Espagne à cette époque-là. Et donc, très bien, il se repose, il mange, il boit chez Bébrix. Et le soir, pour répondre à la convivialité, il raconte ses travaux. Alors, on va faire une petite révision. Il raconte, par exemple, le premier, enfin, en vrac, si vous voulez.
Les écuries d'Augias.
Les écuries d'Augias, il a nettoyé les écuries d'Augias. Autre.
Tuer le Minotaure.
Ah non, c'est pas lui qui a tué le Minotaure. Il a dompté le taureau blanc de chez Minos. Et ça oui, mais le Minotaure, bah, lui, c'est Thésée. Donc, ensuite, qu'a-t-il fait donc ce fameux Hercule ? Il a récupérer la ceinture des Amazones. Oui, c'est ça. Il a coupé les têtes de l'hydre de l'Erne. Il a assommé un chien à trois têtes. Le chien à trois têtes, là-bas au fond. comment ça s'appelle? Vous, oui, non, mais... Non. Quel est le chien à trois têtes? Harry Potter. Enfin, entre autres, mais là, c'est pas Harry Potter, c'est Hercule. Comment s'appelle le chien à trois têtes? Cerbère. Cerbère. Et oui. Et donc, oui. Non, mais là, c'est le chien à trois têtes. Etc. Donc là, il va faire son dixième travail. Il va récupérer le troupeau des bœufs sanguinaires de Gérion, de l'autre côté de la frontière qui n'existe pas à l'époque. Et c'est-à-dire, on dit que Gérone, Gérion, ce serait par là. Mais c'est pas sûr, hein, c'est une hypothèse. Beaucoup dans les contes sont des hypothèses. Beaucoup de choses sont des hypothèses. Donc, il est là et puis il raconte ses histoires. Et puis, à la fin de la soirée, il entend un petit bruit et il y a une petite tête qui arrive, c'est Pyrène, qui arrive et qui est là pour écouter. Alors, Bébrix fait les présentations, Pyrène, ma fille, Hercule, voilà. Donc, bon, ben voilà, le temps passe et puis il continue à raconter ses histoires et puis il se prend d'amitié, peut-être d'amour un petit peu quand même pour la jeune fille. Et la jeune fille, alors elle, ouh, ce grand gaillard tout beau, tout qui rappe, en plus il raconte des histoires. Mon Dieu, il l'a fait rire, oh là là, c'est incroyable, l'homme parfait. Et donc elle est ravie. Elle est ravie, donc il reste une soirée, deux soirées, trois soirées. Il lui raconte, il faut le temps quand même de raconter les neuf travaux précédents. Hein. Et puis, un jour quand même, il reçoit un petit flash de Jupiter, de Zeus, quand même. C'est, il n'y a pas les téléphones, mais il fait zou, il y a un petit flash qui dit, eh oh, il faudrait peut-être continuer les travaux. Donc il faudrait partir. C'est Hermès, le dieu de la communication, qui fait et qui lui dit qu'il faut qu'il se dépêche à partir. Alors Hercule, ni une ni deux, un matin, il se lève, il s'en va. Il descend vers le sud. Et la petite, elle se réveille un petit peu après, elle dit « Oh, mais où est-ce qu'il est, Hercule ?» Et son père lui dit « Ben, il est parti ce matin. Il est parti très tôt. Mais il ne m'a pas dit au revoir, il ne m'a pas salué, il est parti comme ça. » Et oui, il est parti comme ça. Alors elle est tellement triste qu'elle part sur la route, qu'elle marche. Elle est obsédée par son amour et donc elle ne voit rien, elle n'entend rien. Elle part vers le nord, enfin vers le nord de là. Donc on va dire les Corbières, hein, ça serait pas mal. Voilà, vers le nord de là-bas. Et donc, par contre, lui descend à Gérone. Et quand il arrive, eh bien, les bœufs sanguinaires sont gardés par un géant. Ce géant, c'est le fils. C'est le fils. Alors là, c'est un peu compliqué, mais c'est le fils du. C'est le fils du fils de la Méduse, de la Gorgone. Voilà. Qui, quand elle s'est fait couper la tête, c'est dommage, il n'y a plus le garçon. Je lui avais dit, il y aura des têtes coupées. Mais bon, il est parti avant qu'il y ait des choses un peu gore comme ça. Donc, vous savez que la Méduse, la Gorgone, s'est fait couper la tête par Persée. Et fouf, le sang a coulé de son cou et de son cou est sorti Pégase et Chrysaor. Pégase est sorti du cou de la Gorgone. C'était, voilà, à l'époque. Voilà. Et donc, Chrysaor a eu un fils qui lui-même donc, était gardien du troupeau des bœufs sanguinaires. Donc, Hercule, quand il est arrivé, il a vu ce troupeau, il a vu ce grand bouvier-là. Donc, bon, il avait quand même des flèches qu'il avait trempées dans le sang de l'hydre de Lerne, donc des flèches empoisonnées. Donc, il a tiré une petite flèche, hop, il a tué le bouvier. C'était assez facile. Et puis, il y avait un chien qui était le cousin de Cerbère. Lui, il n'avait pas trois têtes, il n'en avait que deux. Mais il a pris sa grosse massue de bois d'olivier et il l'a assommé assez facilement aussi. Et puis est arrivé Gérion, le fameux Gérion, fils du fils de la Méduse. Et Gérion, c'est un être étrange. C'est un être à trois bustes. Il a trois bustes, donc trois têtes et six bras. Vous voyez, et que deux jambes. Hein? Voilà. Et donc... Ouais, presque. Et donc, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, Gérion, quand il a vu arriver Hercule, il s'est dit, il faut que je m'habille. Donc, il a mis trois casques. Il a mis plein de choses en ferraille sur lui pour se protéger, et c'était très lourd quand même. Donc, quand Hercule est arrivé, il l'a fait courir un petit peu. L'autre, il est tombé, pff, avec tout ce qu'il avait sur le dos, il n'a pas pu courir bien vite. Hercule a tiré une petite flèche, hop, il a tué Gérion, il a pu embarquer le troupeau. Il est revenu chez Bébrix, et là, tout fier, tout fier d'avoir réussi son dixième travail, il a dit: je viens voir Pyrène, est-ce que Pyrène est ici? Et Bébrix lui dit: mais non, Pyrène elle est partie et on la cherche depuis déjà quelques jours, donc elle est partie vers le nord et on ne sait pas où elle est. Alors lui, Hercule, il se dit: mais mon Dieu, elle est partie, mais c'est à cause de moi. Mais oui, tu lui as pas dit au revoir, tu ne l'as pas salué, tu es parti très tôt le matin. Alors il est coupable quand même un peu, Hercule. Alors il va vers le nord, il marche, il va, il rentre dans les bois. À l'époque, il y avait des bois, tout n'avait pas brûlé. Et donc il va dans les bois, et là il entend le loup, les loups. C'est pas bien quand on entend hurler les loups, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Effectivement, quand il arrive, la petite a été déchiquetée par les loups qui étaient là dans cette forêt. Donc lui, il l'a prise dans ses bras. Et puis il a avancé, il est redescendu vers de là où il venait, il a marché vers la grande plaine, et là, il s'est dit: je vais lui faire un tombeau, le plus beau tombeau du monde. Et donc, comme il était grand et costaud quand même, il a pris des gros cailloux, et il les a empilés, jusqu'à ce que son chagrin se passe. Et c'est devenu une montagne, et puis le temps a passé. Et puis il avait mis la petite dans une caverne, il avait bien refermé, il était parti, il était retourné de là d'où il venait avec son troupeau. Et puis le temps a passé, l'herbe a poussé, les arbres ont poussé, et les dieux quand même, les dieux pour se souvenir de cette histoire, ont donné une musique à cette montagne. Et si vous y allez, vous êtes tout près, vous. Vous pouvez toujours entendre, quand l'ouen buffle, vous pouvez toujours entendre une grande lamentation. Et cette grande lamentation, c'est Pyrène, dit-on, qui pleure encore son amour pour Hercule. Et depuis, on a appelé cette montagne Pyrénée, en l'honneur de Pyrène et de cette histoire d'Hercule. Et crac et cric, le conte est fini, et cric et crac, le conte est acabat. Et pour la petite histoire, elle a été trouvée, puisque j'ai des oreilles adultes, elle a été écrite par Silius Italicus, qui était un poète latin de 80 après Jésus-Christ. Et il a écrit, alors c'est un tout petit peu plus, elle était enceinte, dans l'histoire de Silius Italicus, elle est enceinte, elle accouche d'un serpent. C'est un peu plus un peu plus laborieux, mais je la raconte pas comme ça. Ça dépend s'il y a des enfants ou pas, parce que rien que l'image d'accoucher d'un serpent peut être un peu choquant. Donc vous avez donné, voilà, c'est ça. Donc, mais il y a une chose intéressante, c'est dans le petit village de O-O-O. Il y a une petite statuette, et on dit que c'est la statuette de Pyrène avec le serpent, parce qu'on voit le serpent qui sort et qui vient lui téter le sein. Et c'est une petite statuette qui est dans la chapelle de O-O, pour ceux qui connaissent. Et ça vient avec cette histoire de Pyrène.